Bonjour à tous, aujourd'hui Kevin vient nous parler de géo-ingénierie, donc je le laisse présenter son sujet.
Ok, bon bah bonjour tout le monde. Donc, vous n'avez sûrement pas beaucoup entendu parler de géo-ingénierie, j'imagine, sauf peut-être des gens que j'ai déjà vus par ailleurs. Alors pourquoi il faut s'intéresser à la géo-ingénierie? Il y a une journaliste qui récemment a titré un article en disant « Si vous ne vous intéressez pas à la géo-ingénierie, c'est la géo-ingénierie qui va s'intéresser à vous ». Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Moi, je suis pas un climatologue, je suis pas un expert du climat. Je fais un travail un peu de veille citoyenne sur cette question de géo-ingénierie parce que c'est quelque chose qui avance malgré ce qu'on en pense et parfois dans le silence. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle la géo-ingénierie, si vous ne connaissez pas le sujet? La géo-ingénierie, c'est l'ensemble des techniques qui visent à modifier le climat à l'échelle mondiale. Alors, ça englobe beaucoup de choses, ça n'englobe pas certaines choses. Donc je voulais juste faire un petit cadrage. Donc ça n'englobe pas les techniques de modification de météo locale. Vous avez peut-être entendu parler des défilés militaires chinois dans lesquels on lance des petites fusées dans le ciel avant pour pas qu'il y ait de la pluie qui tombe... sur les défilés où ils ont fait ça apparemment pendant la Coupe du Monde de foot en 2010 en Afrique du Sud. Donc ça, c'est de la modification de la météo locale et donc ça rentre pas clairement dans la géo-ingénierie telle que je la traiterai aujourd'hui. Et ça, je vais passer le point technique. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de géo-ingénierie? Donc, on a eu en décembre 2015 cette grande messe qui était la COP sur le dérèglement climatique et elle a été décevante à plein d'égards. Mais s'il y a une chose qu'elle a amené de peut-être positif, c'est que de marteler une bonne fois pour toutes, on va dire dans les esprits, la réalité du dérèglement climatique et d'évacuer en quelque sorte les dernières voix climato-sceptiques qu'on pouvait encore avoir dans l'espace politique ou médiatique. Donc le changement climatique, je vais pas revenir dessus longuement. Donc on sait, enfin le GIEC nous a dit en 2013 que il y avait une augmentation de plus 0,8 degrés qui a été mesurée entre 1880 et 2012, pardon, que les mois de janvier, février cette année ont explosé tous les records. Le GIEC nous dit également que si on reste sur nos scénarios de, pardon, le GIEC c'est le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, donc c'est une instance scientifique qui a ce rôle d'information sur le changement climatique et qui produit ses rapports tous les 3, 4, 5 ans sur différents aspects du changement climatique, en gros. Et c'est eux qui sont à la base du travail scientifique qui a été fait en amont de la COP21. Oui.
Le principe, c'est que vous pouvez poser vos questions, couper l'intervenant pour le perturber et faire avancer, quoi. Dès quelque chose que vous ne comprenez pas, par exemple, un acronyme, l'idée, c'est qu'on partage, donc qu'on n'hésite pas à demander.
Merci pour... oui, ce sera avec plaisir, d'ailleurs. Donc, le GIEC donc, a fait le constat du réchauffement passé, enfin du réchauffement climatique qu'on a déjà à l'heure actuelle, et fait également ses travaux de projection. Et donc, le GIEC nous dit que si on reste sur nos scénarios d'émissions actuels, sur nos niveaux d'émissions actuels, en 2100, on sera un réchauffement de la planète, des températures globales qui sera autour de plus 5 degrés. Plus 5 degrés, c'est des conséquences juste inimaginables. D'ailleurs, on n'arrive pas trop à les imaginer. La dernière fois que ça est arrivé, c'était il y a 15 millions d'années, donc l'humain n'était pas là, mais l'homme n'était pas là. Donc face à ce constat des dérèglements climatiques présents et à venir, en fait, il y a trois types de solutions, trois voies qui ne sont pas exclusives. La première, c'est l'atténuation. C'est la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait depuis 1992 que les États en parlent. Depuis 1992, les émissions de gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter. On n'a pas eu une seule diminution. Donc ça, pour l'instant, on ne le voit pas venir. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. L'adaptation, c'est faire en sorte de vivre avec le changement climatique, faire en sorte que les populations soient moins vulnérables aux conséquences du changement climatique. Donc ça, d'une part, c'est déjà un peu un renoncement, c'est-à-dire qu'on s'apprête à vivre avec le dérèglement climatique. Et ensuite, ce que nous dit encore le GIEC, donc le groupe des experts sur le climat, c'est que l'adaptation, ça marche dans une certaine limite. On peut s'adapter à des réchauffements de l'ordre de 2 degrés, mais qu'au-delà de ça, les mesures d'adaptation qu'on connaît à l'heure actuelle ne marcheront pas. Le GIEC fait tout un travail, a tout un pan, un tiers de son travail qui est orienté là-dessus, et donc l'adaptation a ses limites. suite. Et donc, en plus de ces deux voies, il y en a une troisième qui commence à émerger depuis quelques années, c'est celle de la géo-ingénierie, donc de l'intervention climatique, des solutions techniques pour contrebalancer le réchauffement climatique. En fait, c'est né autour de 2005-2006, quand des scientifiques ont commencé à se dire « Bon, on connaît le plan A, le plan A, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais si ça ne marche pas, il nous faut un plan B. » Et donc, c'est ce plan B qui a été développé et qui a commencé à germer dans la tête de ces chercheurs. Et donc, depuis 2005-2006, on a plusieurs techniques qui ont été pensées. À l'heure actuelle, quand on fait une recherche rapide, on en dénombre environ une quarantaine. Donc, il y en a des plus farfelues ou plus sérieuses. Celle que je préfère, enfin, j'arrive pas à savoir si c'est la plus rigolote ou la plus terrifiante, c'est de modifier l'orbite de la Terre, décaler un tout petit peu la Terre du Soleil. Donc, si vous voulez savoir comment on fait, on pourra en discuter après. Déplacer un tout petit peu la Terre pour recevoir moins de rayonnement solaire. Donc là, vous voyez que quand on parle de ça, vaut mieux pas trop se planter dans les calculs. Hein. Vaut mieux être assez sûr de ce qu'on fait. Une autre technique qui est très belle, parce qu'on a souvent des belles imageries, des beaux visuels là-dessus, c'est d'envoyer en orbite des dizaines de milliers de très grands miroirs, de parasols solaires, pour réfléchir du rayonnement solaire. Donc on a toutes ces techniques de science-fiction, mais à côté de ça, on a quelques techniques qui commencent à être plus mûrement réfléchies, qui commencent à être discutées internationalement, et certaines ont même été expérimentées. Alors dans les deux types de techniques qu'on a à l'heure actuelle sur la géo-ingénierie, qui sont mises en avant, on peut les classer en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les techniques qui visent à jouer sur les grands cycles du carbone. Donc vous savez que le réchauffement climatique est principalement dû, enfin le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2. Et donc l'idée, ce serait de réussir à capter le CO2 de l'atmosphère, là où il participe à l'effet de serre, et de le mettre dans d'autres compartiments géologiques ou biologiques où il ne nous dérangerait plus. Et donc pour ça, un endroit qui paraît approprié, ce sont les océans. Il y a énormément de carbone dans les océans. Il y en a 50 fois plus que dans l'atmosphère. Et donc si on arrivait à prendre la partie en trop du CO2 de l'atmosphère et à la mettre dans les océans, ben on aurait gagné. Et donc justement, il y a des micro-organismes qui peuvent nous aider à faire ça. C'est le phytoplancton, donc c'est des petites algues et plantes microscopiques. Quand le phytoplancton grandit, il grandit en surface des eaux et donc il capte du CO2 atmosphérique, puis il va se développer et mourir, et en mourant, il va redescendre au fond des océans et amener avec lui le carbone qu'il aura fixé. Et donc, oui. Et ben voilà, on y vient justement sur toutes les conséquences à cette question. Donc déjà, comment on fait avant d'arriver sur la conséquence? Comment on fait pour aider le phytoplancton à capter plus de CO2. Et bien, ce qui manque en général à la croissance du phytoplancton, le petit nutriment qui est limitant dans sa croissance, c'est du fer. Et donc, en ensemençant dans les océans quelques tonnes de fer, on pourrait capter un gros surplus de CO2 et le transférer dans les océans. Alors déjà, on a cette question de rendement. Sur le papier, c'est un truc qui marche super bien, parce que c'est très limitant dans la croissance du plancton, le fer. Et une toute petite quantité, quelques tonnes, devrait suffire pour compenser l'ensemble des émissions de CO2 anthropiques. Dès qu'on passe en laboratoire, ça marche beaucoup moins bien. Là, il faut beaucoup plus de quantité. On parle là de milliers de tonnes, enfin vraiment une partie importante de la production de fer annuelle pour compenser les émissions de CO2 anthropiques. Et dès qu'on est passé, parce que ça a été expérimenté, hein, cette technique a été expérimentée grandeur nature en plein champ, donc dans les eaux. Dès qu'on passe en milieu naturel, là, ça marche plus du tout. Et on se rend compte que c'est peut-être un jeu même à somme nulle, voire à effet négatif. Pourquoi? Parce que si vous mettez du fer à un endroit de l'océan, le plancton va croître à cet endroit, mais il va capter tous les autres nutriments nécessaires à sa croissance. Et l'océan est un milieu dynamique où il y a des circulations de courant, et donc finalement, il va capter les nutriments qui étaient nécessaires à la croissance du plancton 100 mètres, 1 km plus loin. Donc finalement, en boostant la croissance du plancton à un endroit, vous décroissez cette croissance, enfin vous diminuez la production du plancton à un autre. Donc finalement, ce serait un jeu à somme nulle, voire même, d'après la dernière étude sur le sujet, à somme négative, où on pourrait diminuer finalement la production du plancton. Et ensuite, quelles sont les conséquences sur les océans? Donc ça, c'est une super question, parce que là, on essaye de modifier des équilibres qui sont vivants. Enfin, là, c'est un écosystème qu'on essaie de modifier. Le plancton, sa croissance et globalement son développement, il répond à des équilibres qu'on connaît peu, qu'on comprend mal, et surtout le plancton, c'est quand même le premier maillon de toute la chaîne alimentaire des océans. Donc la question, qu'est-ce que ça fait sur les océans? En fait, on n'en sait rien, on ne sait pas, mais bon, pourquoi pas essayer, hein. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'il y a dans la tête des gens qui ont cette technique à l'idée. Une autre, oui. Disons que le CO2 est vraiment le gaz qui est qui est en volume et en effet le principal contributeur au gaz à effet de serre. Comment ? Le méthane aussi, mais enfin le méthane a plus grand pouvoir effet de serre, mais il y en a moins en quantité, on en génère moins. Donc enfin la plupart des techniques se basent sur le carbone plus que les autres gaz à effet de serre. Parce que c'est aussi une histoire de concentration. C'est plus facile de capter un gaz qui est en grande concentration dans l'atmosphère que le méthane qui est en très très faible concentration. Une autre technique donc pour capter du carbone dans les océans, c'est une technique qui cette fois-ci repose sur la chimie des océans. Donc les océans naturellement captent du CO2. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui compense annuellement nos émissions anthropiques. Le problème, c'est qu'en captant ce CO2, les océans deviennent acides. C'est l'acidification des océans, vous en avez sûrement entendu parler, ça menace les grandes barrières de corail, les stocks de poissons. Et le problème, c'est qu'un océan acide capte moins de CO2. Donc là, on a un cercle qui est un peu vicieux. Mais du coup, l'idée qui a germé dans la tête d'un ingénieur de ExxonMobil, ce serait de déverser de grandes quantités de chaux, donc une roche calcaire, dans les océans pour finalement rendre les océans moins acides et leur permettre de capter plus de CO2. Alors là déjà on a encore des problèmes de rendement. Il faudrait une tonne de chaux pour capter 2 tonnes de CO2. Les émissions anthropiques annuelles de CO2 c'est 40 gigatonnes, 40 milliards de tonnes, donc vous imaginez ce que ça produit. Et ça c'est un rendement qui ne prend pas en compte le coût de fabrication de la chaux. Il faut chauffer des roches calcaires à très haute température, ensuite il faut les transporter au milieu des océans. Enfin vous voyez que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas vraiment crédible. Enfin, il suffit de le dire, quoi. Et donc, voilà pour ces deux techniques qui reposent sur les océans et qui sont, quand même, qui sont celles qu'on met le plus souvent en avant, malgré leurs limites données. Une autre famille de techniques de géo-ingénierie, cette fois-ci, sont plus celles qui visent à modifier les cycles du carbone, mais plutôt à jouer sur l'ensoleillement, en fait, la quantité de rayons capté par la Terre. Donc ce sont des techniques qu'on appelle de manière un peu acceptable, on va dire, les techniques de gestion du rayonnement solaire. L'idée, c'est que donc le soleil nous réchauffe la planète, mais qu'avant de taper au sol et de participer au réchauffement naturel de la planète, une partie des rayons solaires sont réfléchis dans l'espace par l'atmosphère, par l'air, par les nuages ou par les surfaces au sol. C'est ce qu'on appelle l'albédo, une surface, plus elle est blanche, plus elle va renvoyer de lumière et moins il y aura de chaleur captée par la Terre. Donc l'idée, ce serait d'essayer de faire en sorte que on ait une plus grande proportion des rayonnements solaires qui soient réfléchis vers l'espace au niveau des nuages, au niveau de l'air ou au niveau des surfaces au sol. Et donc là, on a aussi tout un petit monde d'expériences farfelues qui ont été proposées. Il y a des chercheurs canadiens qui se sont dit c'est génial, on n'a qu'à peindre toutes les toits des villes et des maisons en blanc. Bon, il y a d'autres gens qui ont refait les calculs derrière, ils ont dit que ça ne servirait pas à grand-chose. La Banque mondiale a financé un projet qui visait à repeindre en blanc les glaciers du Pérou. Voilà. Mais donc là aussi on a ces techniques un peu farfelues et un autre type de technique qui commence à faire son chemin, c'est la technique de pulvérisation de particules dans la stratosphère. Alors de quoi on parle là? En 1991 il y a eu une grande éruption volcanique d'un volcan aux Philippines qui s'appelle le Pinatubo, et ce volcan dans son éruption a propulsé dans la stratosphère, donc la couche qui est au-dessus de l'atmosphère, des millions de tonnes de dioxyde de soufre. Et donc ce dioxyde de soufre a fait cet effet parasol et a renvoyé une partie du rayonnement solaire vers l'espace, qui fait que dans les 2 années qu'ont suivi l'éruption du Pinatubo, on a mesuré une diminution des températures de l'ordre d'un demi-degré. Et donc, certains pensent qu'on peut tout simplement... Il y avait une question ? En tout cas, c'est quelque chose... Il y a cette théorie qui a avancé, notamment même pour la disparition des dinosaures. On pense que c'est dû à ça. Oui, pardon. La question était... C'est une théorie qui a avancé, cette question de parasol solaire, finalement, dû aux éruptions volcaniques, pour expliquer une dernière glaciation. C'est le cas. C'est aussi le cas pour expliquer la disparition des dinosaures, notamment. Mais le truc, c'est qu'avec le Pinatubo, ça a été mesuré là, vraiment. C'était en 91, on avait déjà tout le réseau de thermomètres, donc on a vraiment pu quantifier cet effet. Et donc l'idée serait de, cette fois-ci, pulvériser artificiellement dans la stratosphère ces particules de soufre pour mimer cet effet Pinatubo, cet effet volcanique. Techniquement, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile. C'est des grandes quantités de soufre, mais finalement, on pourrait y arriver. Donc, les promoteurs de ces techniques pensent qu'en détournant seulement 1% des flottes d'avions commerciaux, on pourrait faire ce travail. Il y a des dispositifs qui ont été brevetés pour le faire. Donc, il y a une entreprise américaine qui a breveté un dispositif, en fait, un long tuyau d'arrosage qui tient en l'air avec des trous dedans pour utiliser du soufre et qui tient en l'air par un petit ballon dirigeable. Voilà pour ça. Vous vous dites que vous êtes peut-être pas super chaud à l'idée que des gens déversent des millions de tonnes de dioxyde de soufre au-dessus de votre tête. Et vous avez raison. Pourquoi ? Alors, faut voir que ce dioxyde de soufre, quand il est en l'air, il va pas rester là-haut tout le temps, il va tomber, et en retombant, déjà, il va croiser des gens et leurs poumons. Le dioxyde de soufre, c'est une des particules polluantes de la pollution urbaine, et donc propulser, enfin diffuser ces particules dans des proportions suffisantes pour diminuer, pour contrebalancer le réchauffement climatique, ça se chiffrerait par des dizaines, voire des centaines de milliers de morts par maladie pulmonaire par an. Un deuxième problème, c'est que vous imaginez bien que dans un système complexe comme le climat, on ne peut pas modifier un paramètre, typiquement la masse de rayonnement capté, sans toucher aux autres paramètres. Et un autre paramètre qui serait modifié, ce sont les précipitations. Donc ça, c'est des modélisations qui le montrent, que si on modifie, si on joue sur la quantité de rayons solaires réfléchis par ces particules de soufre, on changerait drastiquement les régimes de précipitation. Les endroits plus humides seraient encore plus humides, les endroits plus secs seraient encore moins. Il y aurait des grandes sécheresses prévues. Enfin, ces modèles prédisent de grandes sécheresses dans des endroits comme le Sahel et éventuellement aussi une perturbation des régimes de mousson en Asie. Donc la mousson, il y a quand même environ 2 milliards de personnes qui en dépendent directement ou indirectement pour leur survie, enfin pour leur production agricole. Et ensuite, il y a un dernier risque associé à cette technique qui est peut-être le plus effrayant. C'est que, imaginez que dans l'avenir, donc sur les 50 prochaines années, on veuille diminuer donc les rayons, gérer ces rayons du soleil, et qu'on se lance dans cette diffusion du soufre. Donc on évite un réchauffement climatique sur ces 50 années. Imaginons qu'après ces 50 années, on arrête subitement cette technologie pour cause de conflit, enfin on ne sait pas. Et bien finalement, ce qui se passerait, c'est que tout le réchauffement évité sur les 50 ans, on se le reprendrait, mais sur une période de 5 à 10 ans. Et donc là, vous adaptez, enfin déjà s'adapter à plus 2, 3, 4 degrés de réchauffement des températures en 50 ans, c'est pas gagné, mais alors en 5 à 10 ans, bon courage. C'est ce qu'on appelle l'effet de terminaison en anglais, ou je l'avais noté. Ça me permet de tourner mes pages. L'effet rebond, voilà. Donc parce que sur les courbes, vous voyez très bien que les températures remontent très vite après. Oui. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Ouais. Ouais.
S'il y a brutalement une augmentation de la température qui est encore plus brutale, il peut pas y avoir justement, je sais pas, des dégagements de méthane ou des trucs qui vont accélérer et qu'on peut se retrouver comme la crise du Permien. Je sais pas si vous voyez le Permien.
Ah oui, enfin, je pense que de toute façon, si on se prend plus 5 degrés en 5 ans, enfin. On peut, oui, c'est sûr qu'il y aura des rétroactions positives, des glaciers qui vont fondre à une vitesse folle, et donc encore moins de soleil réfléchi, des permafrosts qui vont dégeler du méthane dégazé, enfin là on peut imaginer tout. Mais déjà, plus 5 degrés en 10 ans, c'est déjà un scénario assez catastrophe comme ça. Donc ce que ça veut dire, cet effet rebond, ce risque d'effet rebond, c'est que finalement si on se lance dans une telle technique, il faudra jamais arrêter, enfin on peut pas faire machine arrière. Et donc ça, c'est engager des générations futures, et c'est quelque chose d'éthiquement assez compliqué. Et enfin, encore une fois, là, on ne gère qu'un symptôme, on ne gère que le réchauffement, on ne gère pas la cause du problème qui sont les émissions de gaz à effet de serre, et donc ça réglerait en rien d'autres problèmes liés à ce dérèglement climatique, comme l'acidification des océans, par ailleurs. Donc au final, si ces techniques sont si peu au point, enfin les techniques à la fois qui jouent sur le carbone et celles-là, si peu au point et si risquées, Pourquoi ça vaut le coup d'en parler? Pourquoi les climatologues ne rangent pas ça dans leur tiroir une bonne fois pour toutes et arrêtent de le rabâcher? Et ça, pour le comprendre, c'est intéressant de voir un peu qui sont les acteurs de ces techniques. Et donc, sur le point scientifique, on a deux chercheurs américains, bien sûr, qui reviennent continuellement, qui sont dans tous les rapports, que ce soit les rapports du GIEC, donc le groupement des experts sur le climat, que ce soit les rapports de l'Académie des sciences américaines ou anglaises, on a ces deux noms qui reviennent tout le temps, au point qu'un journaliste américain les a appelés la géoclique. Donc ces deux chercheurs s'appellent David Kess et Ken Caldera. Et donc ils animent tous les débats autour de la géo-ingénierie du point de vue scientifique. Alors, ce sont des chercheurs qui sont scientifiquement solides, hein. Ils ont des publications, ils ont des travaux qui ont été validés par leurs pairs, ça pose pas de problème. Ce qui pose un peu plus problème, c'est que ces deux chercheurs ont chacun une start-up dans le domaine de la géo-ingénierie. David a une start-up qui s'appelle Carbon Engineering, qui essaie de développer des techniques de captation du carbone dans l'atmosphère. Et Ken Caldera, lui, fait partie de Intellectual Venture, qui est la start-up d'inventeur de Bill Gates. Et lui, c'est celui qui a développé ce petit prototype de ballon dirigeable qu'emmènerait dans le ciel un tuyau d'arrosage pour balancer des particules de soufre. Et donc là, on voit quand même pointer le problème que ces deux types qui animent toutes les réflexions sur la géo-ingénierie, si jamais on se lance dans la géo-ingénierie, ce sont ces deux-là même qui vont gagner le jackpot avec leurs brevets déjà déposés, avec tous ces potentiels de profit. Et d'ailleurs, Ken Caldera se gêne pas pour le dire. Pour lui, il voit le dérèglement climatique et la géo-ingénierie comme une source formidable de profit. Donc voilà, enfin, ça a le mérite d'être clair. On a d'autres types d'acteurs aussi dans ce petit monde de la géo-ingénierie. Comme je l'ai déjà sous-entendu, on a quelques milliardaires qui directement ou par leur fondation financent la recherche en géo-ingénierie. Bill Gates notamment, à travers cette start-up Intellectual Venture, finance ses recherches sur la diffusion des particules de soufre. Alors Bill Gates, lui, il le fait, il le dit, enfin, c'est vraiment dans son esprit Silicon Valley, où pour lui, c'est la foi en la technique, c'est la technique qui nous sauvera. Il l'a dit d'ailleurs, il ne croit pas dans ce qu'il appelle les solutions du passé comme la rénovation thermique, pour lui ça c'est has-been. Dans le même genre, on a le patron de Virgin en Angleterre, Richard Branson, qui lui a promis 25 millions de dollars à qui trouverait une technique qui nous permettrait de contrebalancer le changement climatique. Alors ça peut paraître super humaniste comme ça, mais il ne faut pas oublier que ce type a aussi une compagnie aérienne sous sa marque, donc là on comprend un peu mieux. Et on a également quelques francs-tireurs. Il y a un milliardaire américain qui s'appelle Russ George qui lui a financé et poussé des expériences d'ensemencement des océans, donc avec du fer comme j'ai expliqué tout à l'heure, et lui il s'en cache pas, c'était dans le but de générer des crédits carbone et de pouvoir les vendre. Donc voilà un peu pour cette cartographie des acteurs. Et enfin, il y a un groupe d'acteurs qu'il ne faut pas oublier, ce sont les grands groupes des industries fossiles. Ceux-là même qui étaient climato-sceptiques il y a encore quelques années et qui maintenant disent qu'ils reconnaissent la problématique du dérèglement climatique, mais qui veulent être à la pointe des solutions techniques à ce problème. Et eux, il faut tout simplement se mettre à leur place. Hein. Le GIEC nous dit que pour rester sur la trajectoire de 2 degrés, d'un réchauffement limité à 2 degrés à la fin du siècle, il faut laisser sous terre 80% des ressources fossiles connues à ce jour. C'est-à-dire 80% des ressources fossiles qui figurent dans les comptes, dans les bilans financiers des grands groupes pétroliers, charbon, gaz. Et donc s'ils figurent dans ces bilans financiers, c'est que ces groupes ont intérêt, ces groupes ont comme projet de brûler tout ce pétrole, de le vendre et de le brûler. Donc vous voyez que pour ces groupes, une régulation des émissions et des énergies fossiles, vous voyez le manque à gagner que ça produirait. Et c'est pour ça que pour l'industrie fossile, tout est préférable plutôt que la régulation des émissions de gaz à effet de serre. Tout est préférable, voire même la régulation finalement des rayons du soleil, plutôt que l'utilisation des énergies fossiles. Donc voilà, quand on creuse un peu les sources de financement et qu'on identifie les intérêts en présence, on comprend un peu mieux pourquoi des technologies aussi peu au point, aussi risquées, aussi inquiétantes, aussi peu soutenues par les quelques sondages qu'on a sur l'opinion publique sur ces questions, pourquoi ces techniques sont de plus en plus mises en avant. Le problème, vous imaginez bien, c'est qu'à force d'entendre cette douce mélodie qui nous dit que on a une solution technique ou même avec des réserves que peut-être bientôt on aura une solution technologique au problème du dérèglement climatique, finalement on peut commencer à se laisser séduire un peu par ça. Le plan A qui est la réduction des émissions est peut-être pas si urgente qu'on verra bien plus tard, qu'on a déjà des pistes. Et surtout, faut pas oublier qu'on est dans un contexte où nos dirigeants politiques l'ont bien montré en décembre, hein, ils font preuve d'un volontarisme environnemental qui les caractérise bien. Et donc avoir tous ces promoteurs de la géo-ingénierie qui leur susurrent à l'oreille et que bientôt on aura ces solutions, vous voyez le danger qu'il y a derrière ça. Tout à fait, voilà, enfin, ça c'est très clairement les bases du projet de géo-ingénierie, c'est-à-dire déjà à la base, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que finalement c'est une croyance en la technologie pour combler ses faillites, ses propres faillites, enfin la fuite en avant technologique pour finalement corriger ses propres erreurs. Et puis enfin, toujours cette idée que la logique qui a créé le problème peut finalement se résoudre ce même problème. Donc on voit qu'on marche un peu la tête à l'envers. Et quel était ton deuxième point? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et ça d'ailleurs, ça a un joli nom dans le domaine assurantiel. Ça s'appelle le risque moral, l'aléa moral. Le fait de posséder une assurance nous enclin en général à avoir de plus de comportements à risque. Et ça, c'est clairement un des dangers de la géo-ingénierie. Et donc, c'est ce qu'on disait, ça joue au niveau individuel et ça joue évidemment au niveau des décideurs. Donc, voilà un peu pour un état des lieux en ce qui concerne les techniques et les acteurs de la géo-ingénierie. Donc, vous voyez que c'est pas réjouissant. Si on se projette dans un futur proche, réaliste, dans lequel on aurait déployé ces techniques de géo-ingénierie, vous allez voir que c'est assez angoissant aussi. Oui ? Alors, il y a certains pays qui ont des intérêts à ça. C'est certains pays qui ne veulent pas du tout réduire leurs émissions. Par exemple, donc je vous disais que dans le rapport 2013 du GIEC, il y a eu la première mention de la géo-ingénierie et qui a eu le droit à un joli encadré dans le résumé pour décideurs, donc le rapport succinct de 40 pages que sont censés lire tous les directeurs, enfin tous les gouvernants. Et donc apparemment ce serait la Russie qui aurait poussé vraiment à inclure cet encadré là parce que la Russie a tous ses enjeux stratégiques autour des hydrocarbures, autour on sait de toutes les réserves en Antarctique, toutes ces questions. Donc il y a à la fois des pays qui n'ont aucun intérêt à diminuer, à voir encadrer les émissions de gaz à effet de serre, et après il y a tout ce travail de lobby effectivement des grands groupes pétroliers, enfin tout ce... Alors ça, c'est toujours difficile à dire. C'est toujours très difficile à dire. Ouais. Donc voilà, ouais, j'en étais à ce futur hypothétique où on aurait déployé ces techniques de géo-ingénierie. Donc vous voyez bien que le problème de ces techniques, c'est qu'on peut agir assez localement. La technique de diffusion des aérosols de soufre, n'importe quel pays qui a une belle flotte aérienne pourrait demain, enfin c'est techniquement réalisable, pourrait demain, après-demain peut-être, la mettre en place et avoir un effet global à l'échelle de la planète. D'autant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de réglementation autour de cette activité de géo-ingénierie, ni pour l'expérimentation, ni pour sa mise en pratique. Il y a quelques textes comme la Convention sur la modification de l'environnement ou la Convention sur la diversité biologique qui font vaguement référence, mais c'est des textes peu contraignants. Qui sont souvent l'objet d'interprétation. Donc, enfin, pour l'instant, on a vraiment peu de réglementation autour de ça. Et même dans l'optique où il y aurait un consensus autour de ces techniques de géo-ingénierie, on peut toujours se poser la question des méthodes de gouvernance autour de ça. Si on déploie ces techniques, finalement, qui aurait le dernier mot, qui aurait la main sur le thermostat en disant bah, on va régler le thermomètre de la planète à temps. Parce que pour caricaturer, mais ce sera ça, il faudra faire des choix du type moins 2 degrés de réchauffement climatique versus des sécheresses au Sahel et des moussons déréglées. Qui va faire ses choix, avec quel mandat? Enfin, vous voyez que ça pose des questions et ce serait peut-être pas mal de se poser ces questions avant de se lancer dans la recherche tête baissée sur la question. Donc je vais finir sur la perspective qu'a ouverte le texte de l'accord de Paris, donc de la COP21. Vous avez peut-être suivi, donc ça a été signé la semaine dernière, et donc ce texte adopte un objectif donc de réchauffement contenu à plus de degrés, voire plus de degrés, à l'horizon 2100. Pourtant, il n'y a pas du tout de cahier de route détaillé pour atteindre cet objectif. Il n'y a aucune mention aux limites d'émissions, aucun moyen contraignant qui a été trouvé pour le moment. Aucune mention sur l'utilisation des ressources fossiles, voire même, truc super logique, sur les subventions publiques aux énergies fossiles, il n'y a rien. Tout ce que nous dit le texte, c'est que c'est qu'il nous explique vaguement pour arriver à cet objectif de plus 2, voire plus 1,5 degré de réchauffement en 2100, il faudrait réduire les émissions dans les meilleurs délais afin d'avoir un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques par les puits de carbone. Donc là, je cite le texte de l'accord de Paris. Donc vous voyez qu'on commence à parler d'absorption anthropique par les puits de carbone. Donc des formulations un peu ambiguës. La seule chose que met en avant ce texte, c'est un équilibre entre les émissions et les absorptions. Et donc là, on voit qu'il y a une faille dans laquelle la géo-ingénierie pourrait se faufiler. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, on n'entend plus trop parler de ces techniques de géo-ingénierie massives comme celles dont j'ai parlé, l'ensemencement des océans, la gestion du rayonnement solaire. Non, depuis quelque temps, on entend parler de choses comme de la géo-ingénierie territoriale, de la géo-ingénierie douce, des émissions négatives de carbone, et pour faire référence à des techniques qu'on connaît bien, comme la forestation, ou des techniques qui sont en développement, comme la capture et la séquestration du CO2 en sortie d'usine. Mais voilà, on utilise ce terme de géo-ingénierie pour parler de ces techniques, et on peut se demander s'il n'y a pas certaines volontés d'acculturation du public, de familiarisation avec ce terme et avec ces techniques pour ensuite revenir à la charge avec ces techniques plus dures, de géo-ingénierie dure, que j'ai présentées. Et ça, il ne faut clairement pas que ce soit le choix, il ne faut pas que ce soit le cas, il ne faut pas se laisser avoir par ces promesses, par ces fausses solutions. On ne peut pas faire aujourd'hui l'économie de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Et les gens qui veulent nous le faire croire sont soit des gens qui veulent continuer à cramer du pétrole parce que ça leur rapporte de l'argent, soit des gens qui espèrent faire un paquet d'argent avec leur technique brevetée et prête à être développée. Donc, comme on l'a traité, hein, c'est toujours cette logique qui nous fait croire qu'on peut toujours régler les problèmes des technologies avec toujours plus de technologies. J'avais envie de vous parler de ces techniques aujourd'hui parce qu'elles soulèvent des problèmes démocratiques, évidemment. Pour l'instant, en ne faisant rien, on se dirige par défaut vers ces technologies. Donc il y a vraiment une pression citoyenne à mettre sur nos dirigeants pour refuser ça. C'est ce qui a été le cas autour de la COP pendant la mobilisation citoyenne. Il faut maintenir cette pression. Et il y a également des choix démocratiques à faire sur l'orientation des recherches, de la réglementation autour de ces technologies. Donc voilà, j'ai fini cette présentation. Je serais ravi d'avoir des questions, d'essayer d'y répondre.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à aiguiller le débat, c'est participatif. Je vous invite à prendre la parole, à réfléchir au problème qu'il vient de nous poser, en fait, simplement ces soucis de démocratie, de fuite en avant, de non-solution aussi au problème du réchauffement par la mise en place de possibles moyens de contrecarrer ce réchauffement. On enregistre donc et après on le met en ligne.
Parce que du coup là t'as parlé que de solutions globales, enfin c'est les trucs qui marchent le mieux je pense, mais est-ce que le fait que chaque citoyen en tant que citoyen se prenne en charge et change ses habitudes lui-même, ça va évoluer plus vite et peut-être plus fort la situation que les gouvernements et seulement les industries ?
Alors, il y a toujours ces deux façons de voir le problème qui ne sont pas du tout exhaustives. Hein. Celles qui se focalisent un peu plus sur les comportements individuels et celles qui, on va dire, qui va essayer de se focaliser plus sur le rôle des grandes entreprises et des politiques. Et je pense que les deux doivent s'articuler. On a un rôle individuel par nos choix énergétiques, nos choix d'habitat, nos choix de déplacement, nos choix de consommation, évidemment. Mais par ailleurs, faut quand même garder à l'esprit, c'est Attac, je crois, qu'a chiffré ça, hein, en disant que 80% des émissions de CO2 peuvent être mises sur le compte de 60 grosses entreprises. Et donc, on a également des gens qui ont vraiment des intérêts à une mission. Il ne faut pas oublier ça dans ce rapport de force. Et donc, je pense qu'avoir essayé de faire levier à ce niveau-là aussi est très important.
Oui, je voulais revenir sur la dernière partie de l'exposé, de l'intervention sur la géo-ingénierie douce, qui effectivement, parce que les premières idées sont tellement terrifiantes que effectivement la population va être effrayée, tandis que toutes les pratiques de captage de CO2 peuvent nous être présentées comme une solution finalement qui nous permettrait effectivement d'émettre puisqu'on capte. Et en fait, la prochaine COP 22 au Maroc a, comme par hasard, comme priorité l'agriculture, avec ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, climato-intelligente, donc des plantes qui seraient capables, enfin, de sauver le monde en aspirant le CO2. Et derrière l'agriculture climato-intelligente, il y a un programme mondial, hein, donc il y a Stéphane Le Foll aussi, hein, c'est les 4 pour, le projet 4 pour 1000 en France, mais qui veut être mondial, capter donc du CO2 par l'agriculture. Il y a la destruction de toutes les cultures ancestrales paysannes pour les remplacer par des pratiques avec des plantes, avec des OGM, Monsanto, enfin il y a toutes ces multinationales derrière, et j'ai l'impression qu'on veut nous faire avaler cette pilule de captage de CO2 douce, en nous disant que là, bah, c'est des pratiques agricoles qui n'auraient pas de conséquences. Alors, ça n'aura pas d'effet sur le climat, sauf à être mondialement étendu, ce qui met en concurrence d'ailleurs la culture pour se nourrir et puis la culture à visée de captage de CO2. Et ça nous fait avaler de nouveau une pilule, quoi. Donc, il faut se méfier de ça.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais juste que tout ce qu'on appelle ces techniques de géo-ingénierie douce, en fait, sont à l'heure actuelle plus des techniques d'atténuation, de faire en sorte d'émettre moins de CO2 plutôt que d'en capter. Mais, sur le point de vue agricole, il y a des pratiques vertueuses, hein, qui sont celles de l'agroécologie, une pratique moindre du labour, des labours moins profonds, ce genre de choses, qui permettraient d'une part l'utilisation moindre d'engrais chimiques, qui permettrait d'émettre moins de CO2, et également cette pratique des labours raisonnés qui permettrait d'en capter plus dans les sols. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est pratiqué dans l'agriculture, dans l'agroécologie. Et récemment, bah voilà, on commence à appeler ça de l'agriculture climato-intelligente. Et on voit qu'il y a, bah, il y a toujours cette espèce d'enjeu autour des termes. Et essayer de faire rentrer des pratiques vertueuses dans un terme pour le rendre plus acceptable. Enfin, il y a toujours sur les technologies émergentes ce genre d'enjeu des définitions qui sont plus ou moins incluantes, selon les personnes qui les manipulent et selon ce qu'ils veulent nous faire accepter ou non.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à participer, hein, c'est tout à fait ouvert. Est-ce que tu veux continuer sur le sujet, développer, si tu attendais des questions particulières?
Est-ce qu'il y a des points qui vous ont plus intéressé que d'autres, que vous aimeriez voir un peu creusés dans l'exposé que j'ai fait? Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que si l'être humain en lui-même, ça a vraiment une échelle vraiment minime, vous avez dit par rapport aux entreprises, mais l'être humain, si, comme la jeune fille a dit, on se prenait vraiment tous en main d'un côté... Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment ça aurait une échelle plus grande que les entreprises, si vraiment, enfin, c'est une utopie parce qu'on sait très bien que la moitié de la population ne se sentira pas concernée, ne fera pas les efforts, mais est-ce que si vraiment un jour l'être humain se rend compte que lui peut faire un effort et peut changer les choses, est-ce que vous pensez que cette échelle-là sera plus grande que les entreprises? Enfin, je ne sais pas si c'est bien tourné, pardon.
Si. Enfin, je pense que c'est toujours un peu la question de quel est le meilleur levier d'action. Est-ce que c'est le levier individuel en jouant sur les individus et leur comportement, ou est-ce que c'est plutôt le levier systémique? Je sais pas s'il y a une façon de répondre à cette question. Hein. Je pense que c'est aussi une affaire de sentiment un peu. Je sais pas comment le dire. Moi, j'ai quand même toujours l'impression que dans un monde où on essaie de responsabiliser les individus sur leur comportement, et que à l'inverse on les gaffe de publicité et qu'on les enclin toute la journée à consommer plus, il y a quelque chose d'antinomique là-dessus, et à quelque chose, enfin, l'être humain, malgré toutes ses convictions, est quand même ancré dans un système qui lui assène des messages toute la journée, et Et je pense que ce sera toujours quelque chose d'un peu schizophrénique de dire aux gens qu'il faut avoir des comportements vertueux d'un point de vue, enfin pour le climat, pour l'environnement, et les gaver de publicité et les nourrir d'envie de consommation à longueur de journée.
Merci pour ton exposé. C'est plus pour rebondir en fait sur la question de la camarade et ton intervention. C'est vrai que par rapport au levier individuel, moi je pense qu'il est hyper important, mais encore faut-il qu'on ait des espaces possibles. C'est-à-dire que si on construit un monde dans lequel il y aura presque plus de trains, on aura à la place des bus Macron, dans lequel on n'aura plus les moyens que de se payer un aller-retour forcément moins cher, forcément donc avec du pétrole qui rapporte des taxes à l'État, et c'est pour ça en fait que l'État a détricoté la SNCF. Parce que en fait, le lobby routier lui rapportait plus d'argent aussi en termes de taxes sur les carburants. Donc c'est vrai que dans un système dans lequel on a la loi travail qui va faire qu'on va travailler pour toujours moins cher, on aura moins d'argent à investir. Donc même individuellement, on n'aura plus le choix concrètement. Soit on se déplace plus du tout, ou alors en vélo, mais on peut faire jusqu'à 50 km si on est entraîné, hein, surtout si on a des bagages. Donc voilà, je pense que c'est là qu'il y a un levier politique en fait à jouer dans un premier temps, et que notre premier acte individuel, il est là, il est de dire à ceux qui sont censés nous représenter qu'il y a des vraies lignes rouges à pas franchir maintenant, tout de suite, dans les décisions qui sont prises. Et le TAFTA, enfin les projets d'accords commerciaux avec les États-Unis et le Canada vont pas du tout dans le sens ni évidemment du débat démocratique, ni d'un espace qui serait laissé éventuellement aux citoyens derrière. Une, de pouvoir revenir en arrière, parce que c'est prévu effectivement pour être irréversible, donc c'est extrêmement grave. Et surtout, ça va construire, enfin, ça va aller toujours vers le moins 10 ans écologique, environnemental, social. Et donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on bouge au-delà de nos habitudes de consommation qui sont hyper importantes, aussi dans notre réaction politique, je pense.
Du coup, moi, j'avais une question parce que, deux questions d'ouverture un peu. La première, c'est tout le pan légal qui vise à la réduction de CO2. On a vu à quel point c'était inefficace, parce que de toute manière, c'est toujours le problème d'une législation au niveau global. Il y a des intérêts. On a bien vu aussi comment le marché financier s'est emparé de toutes ces taxes en fait sur les émissions de carbone, et comment c'est devenu aussi un business avec des produits dérivés d'assurance, etc., qui sont mis en place là-dessus. Donc c'est un autre problème. Et est-ce que en termes de géo-ingénierie, parce que du coup là t'as parlé de géo-ingénierie appliquée au changement climatique, la géo-ingénierie c'est aussi c'est la question, d'autres modes de développement énergétique, c'est aussi comment créer des habitations plus adaptées qui c'est une question.
Je pense qu'il faut pas mettre sous le terme géo-ingénierie toutes ces pratiques qui ont un impact sur le climat. La géo-ingénierie, c'est vraiment des pratiques qui ont comme impact primaire, principal, de modifier le climat, et impact volontaire et en première instance. On a beaucoup de pratiques qui, en seconde instance, on va dire, dont c'est pas le but premier, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça c'est plutôt de l'atténuation, c'est quelque chose de vertueux et souhaitable. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu pointilleux, mais cet enjeu des définitions est quand même rarement anodin. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe en ce moment au niveau de ce qu'on appelle les nouveaux OGM. Mais il y a toujours cet enjeu. Donc il y a des nouvelles techniques de modification des plantes, enfin des organismes qui ont été mis au point ces dernières années. Et autour de cette définition, donc maintenant on essaie de dire que c'est plus des techniques de modification de l'ADN, c'est des techniques d'édition comme un traitement de texte. Voilà. Enfin, vous voyez que derrière ces définitions, derrière ce qu'on inclut, les promoteurs des OGM vont toujours vous dire que de toute façon, des modifications génétiques, on en fait depuis 6000 ans parce que c'est de la sélection des plantes. Enfin voilà, cet enjeu des définitions est rarement anodin. Il y a toujours quand même un message qu'on veut faire passer derrière. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, je crains un peu de faire passer sous ce terme de géo-ingénierie toutes ces pratiques plutôt vertueuses et de les mettre au même niveau, parce que c'est ça, de les mettre au même niveau que des pratiques beaucoup plus angoissantes.
Est-ce qu'on a une dernière question avant de finir sur le thème de la géo-ingénierie ? Non ? Tu veux conclure ?
Je vais juste conclure en vous disant que ce travail de veille sur ces pratiques de géo-ingénierie, j'y participe au sein d'une association qui s'appelle les sciences citoyennes, pour laquelle on fait ce travail de veille et on produit un peu de la documentation. J'en ai avec moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en discuter ou en prendre un peu à la fin de la discussion. Et merci beaucoup.
Bon, on mettra sur notre site internet les liens vers tout ça.
Juste une petite remarque. Je pense que le monde moderne, il est vraiment, il a un problème, un gros problème de conscience de ce que c'est que le long terme et le collectif, et du court terme et de l'économique. Et je pense que les pouvoirs, à l'heure actuelle, sont plus orientés vers le court terme, et donc ont tendance à négliger les effets à long terme. Et là, il faut vraiment que les citoyens en prennent conscience, quoi. C'est que le collectif et le long terme doit revenir, et le politique doit revenir à la priorité. C'est-à-dire que le choix politique n'est pas un choix économique. Et ça, c'est, je crois, extrêmement important. Hein. Sinon, on va dans le mur. Hein.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec la dernière remarque. Et non, la dernière conclusion que je voulais faire, je voulais remercier Debout Éducation Populaire. Et j'étais très content d'inaugurer cette super journée. Voilà.
Merci à toi, Kevin. Donc, on mettra à disposition un compte rendu que tu nous fourniras. Désolé, c'est du taf. Et des liens vers le site de votre association, vers la documentation que tu proposes. Donc, tu peux proposer une petite bibliographie aussi. Et c'était enregistré, donc on mettra aussi l'enregistrement en ligne. Voilà.